RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec vous pour discuter, pour débattre. Nous sommes avec Frédéric Farah, professeur d'économie, avec Zora Bitant, cadre de la fonction publique, et l'enseignant en philosophie, monsieur Jean-Loup Bonamy. Les policiers sont sous le choc, on le voit sur les réseaux sociaux, on entend les témoignages, avec ce qui s'est passé la nuit dernière dans le 13e arrondissement parisien.
RMC, les grandes gueules.
Et je suis sûr qu'on va vous écouter au 32-16 réagir, parce que la nuit dernière, ce sont donc deux policiers qui ont été blessés grièvement par un riverain. Il a réussi à prendre leur arme de service.
Oui, selon les faits rapportés par nos confrères de BFM TV, en fait, tout commence hier soir vers 21h15. Il y a deux policiers qui sont appelés quai de la gare dans le 13e arrondissement à Paris par un riverain qui signale l'agression en cours de sa voisine dans les parties communes de l'immeuble. Donc les policiers arrivent sur place. Ils voient un homme de type asiatique avec un cutter à la main qui est en train d'agresser une femme. Donc les policiers interviennent. L'homme est très agité et d'ailleurs il leur intime l'ordre de le tuer. Alors, ils ne l'ont pas tué à ce moment-là, ils ont donné un coup de taser, ce qui a permis de maîtriser cet homme, et ensuite de l'emmener au commissariat. Et à ce moment-là, alors pour l'instant, c'est assez confus, hein, on ne sait pas précisément comment ça s'est déroulé, mais les deux policiers, enfin l'un des policiers s'est fait voler son arme, l'arme de service, au moment où ils étaient en train de fouiller l'individu, et l'homme en question, avec l'arme, a tiré sur les deux policiers. L'un des deux policiers est toujours entre la vie et la mort. L'autre policier est blessé, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Et l'assaillant, lui, a aussi été évacué vers l'hôpital Pompidou sans que son pronostic vital ne soit engagé. Voilà, on ne sait pas qui est cet homme. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi était-il en train d'agresser cette jeune femme? En tout cas, il était particulièrement violent et déterminé puisqu'il a tiré sur ces deux policiers. Alors, on posera la question aussi de la sécurité de l'arme. Est-ce qu'elle était enclenchée? Donc, il y a beaucoup de questions encore sans réponse. Mais c'est vrai qu'il y a une onde de choc ce matin au sein de la police. Bien sûr, la police est assez sous le choc par rapport à ce qui s'est passé.
Oui, il y a beaucoup d'émotions parce que ça se passe dans un commissariat, qu'il arrive à prendre l'arme de service. C'est vrai que c'est toute la question du maintien de l'ordre, surtout quand on a affaire à un forcené, parce que s'ils sont intervenus, c'est quand même, comme le rappelait Olivier dans les faits, c'est pour protéger cette femme qui était quand même agressée au cutter, quoi, Frédéric.
Ben, oui, les policiers ont raison d'intervenir, ils ont raison, ils ont utilisé un taser, visiblement, pour le maîtriser. Mais c'est vrai que les grandes questions qui se posent, c'est la sécurité des policiers. Et puis, j'ai lu, effectivement, que l'étui dans lequel se trouve cette arme est un étui sécurisé, donc sur lequel il n'est pas facile d'agir. Et en même temps, ça rappelle la difficulté du travail des policiers qui régulièrement sont exposés.
C'est l'essentiel de leur travail, hein, d'ailleurs, ça. Oui. C'est l'essentiel des interventions, c'est les violences intrafamiliales, oui. C'est maîtriser sur la voie publique des types qui sont psychotiques, qui sont sous le coup de l'ivresse,
bien sûr.
Et pour protéger les citoyens.
Voilà, quoi, et que c'est un métier qui est tout à fait noble et qui est de jour en jour exposé effectivement à des violences de plus en plus terrible, parce que quand même l'homme en question, c'est terrifiant quand j'y pense. Dire non seulement il s'empare de l'arme, mais il y a une intention de tuer qui est nette. Hein. Je pense que si on tire sur des individus, on sait ce qu'on est en train de faire quand même. Enfin, du moins, j'ose espérer qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de commettre comme acte. Donc effectivement, c'est très inquiétant et toutes mes pensées évidemment vont à la police.
Zora.
Ça raconte le quotidien des policiers qui ne sont pas évidemment que ce que certains se plaisent à raconter,
la police est violente,
voilà,
la police ne nous protège pas.
Voilà, exactement, tout ce quotidien fait d'appels des citoyens pour des rixes, pour du voisinage, pour des violences intrafamiliales, etc., etc. Un faible salaire, un dévouement total à la nation, à la République. Ces gens ont décidé de travailler pour nous, en tout cas d'assurer notre sécurité. Donc, il y a plusieurs choses que j'arrive pas à comprendre. C'est que, donc, on vient de voir qu'ils sont en insécurité, puisque l'arme a pu être dérobée. Ça, j'ai pas d'explication. J'espère qu'ils vont s'en sortir, hein, qu'il va pas y avoir trop de trop de dégâts et qui vont s'en remettre. Je leur souhaite en tout cas un bon rétablissement. Et je me dis que voilà, il faut pas jeter l'opprobre, comme dirait l'autre, sur la police. Parce que.
Jeter l'opprobre.
L'opprobre.
Non. On peut leur jeter de l'opprobre.
Le niveau monte.
Ah, la décadence.
Voilà. Non, mais c'est voilà. Ça dit que finalement, cette police, eh ben, il faut la respecter. Et c'est pas parce que il y aurait des individus au sein de la police qui se comporteraient mal qu'il faudrait à chaque fois leur taper dessus dès que certains en ont l'occasion.
C'est une mission de service public essentielle qu'il faut absolument
défendre, préserver. C'est ce que je te disais.
La mission du quotidien.
Des policiers, c'est
la mission du quotidien.
Et c'est de protéger une victime, une femme, agressée par un homme au QTR.
En plus.
Mais oui, donc c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, même s'il peut y avoir des rives policières, il peut y avoir de la violence, que la police fait un travail au quotidien absolument nécessaire dans des conditions de plus en plus difficiles. On sait l'état de nos commissariats, on sait l'état du manque de moyens de notre police aussi.
Ouais, justement, ce qui est intéressant, il y a deux aspects. Il y a l'élément de départ qui est l'agression d'une femme au cutter. Ensuite, il y a le deuxième aspect, le plus grave, le plus spectaculaire. C'est ce pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est le fait qu'il se soit emparé de l'arme et qu'il ait tiré sur deux policiers. Sauf que là, on n'a pas vraiment les éléments, les détails techniques. Non. Donc si on revient quand même sur l'élément de départ, c'est-à-dire l'agression à l'arme blanche, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une flambée de violence à l'arme blanche et d'agression à l'arme blanche, que ce soit des agressions gratuites, que ce soit des vols crapuleux ou que ce soit dans des rixes entre bandes, par exemple. On voit les policiers disent que dans les rixes entre bandes rivales, on utilise de plus en plus un couteau qui est l'Opinel 13, qui est le plus grand modèle, le modèle géant d'Opinel qui fait 50 cm une fois déployé. Et par exemple, j'avais pris des notes avant de venir, rien qu'à Tours. J'ai fait une revue de presse donc dans la ville de Tours, une ville française moyenne. Alors, il y a deux jours, encore deux personnes blessées par arme blanche, la nuit dernière. Cela vient s'ajouter à ce qui s'est passé les nuits précédentes. Un quadragénaire a été balafré à vie à coups de cutter. Avant, un jeune homme a été scarifié sur le dos et un autre a été égorgé. Ça fait cinq. Rien que pour la ville de Tours, ces derniers jours, la nuit à l'arme blanche, t'as cinq personnes grièvement blessées à l'arme blanche dans la ville de Tours. Bah voilà. Donc, sur ça, il n'y a aucune action politique. J'ai d'ailleurs lu dans le Figaro qu'il y avait un projet de circulaire du ministère de la Justice pour dire « Oh bah oui, les gars, comme la justice est surchargée, qu'il n'y a plus de place dans les prisons, les gars qu'on arrête avec une arme blanche, faudrait peut-être envisager que ce soit juste confiscation de l'arme et rappel à la loi, mais pas de poursuite, pas de sanction, puisque de toute façon, on est tellement surchargé. » Bon, bah voilà. Alors qu'on voit qu'il y a une flambée des violences à l'arme blanche qui vont de la rixe entre bandes au terrorisme, aujourd'hui le couteau est très utilisé dans les attentats terroristes, en passant par les agressions comme là dans le 13e. Donc il faudrait peut-être faire quelque chose et être extrêmement ferme justement sur les questions d'armes blanches.
Oui, c'est parce que c'est l'arme que tu as chez toi.
Bah oui, il est la plus facile à se procurer.
Mais c'est aussi la plus facile à sortir, à prendre. Mais je peux dire, tu sors de chez toi sur ton pâté de maison.
Oui, mais alors,
on t'arrêterait à chaque fois que la police justement contrôlerait un gars et qu'il a un couteau sur lui. Le gars, il ferait mettons 2 mois de prison immédiatement. Tu passes un couteau sur toi, c'est 2 mois. Et si tu commets une agression au couteau, là, c'est minimum 10 ans. Je peux te dire qu'il y aurait moins de couteaux sur soi.
Les gens auraient moins de couteaux. Qu'arrive que se passe-t-il pour ceux qui sont interpellés avec des armes aux manifestations. Voilà. Souvent, il y a des fouilles maintenant avant les manifestations ou même avant l'entrée dans le stade. Et on retrouve des armes, on retrouve des marteaux, on retrouve des couteaux. Que se passe-t-il ? Rien. C'est-à-dire qu'on confisque,
à la loi
et on dit merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Donc effectivement, il y a une espèce d'impunité.
C'est l'utilisation intensive ces dernières années. Il y avait déjà des couteaux, il y en a toujours eu.
Attends, on a Abdoulaye Kanté qui est avec nous, notre ami policier que l'on connaît. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour à tous.
Bonjour Abdoulaye.
C'est vrai qu'on est saisi par ce qui s'est passé dans ce commissariat du 13e. Comment est-ce que ce forcené a pu attraper l'arme des policiers, quoi ?
Bah déjà, avant toute chose, j'ai une pensée pour nos deux collègues, notamment celui qui est un peu mal en point. Et on espère tous qu'il va s'en sortir. Et effectivement, le problème, c'est que à la base, ses collègues intervenaient justement pour sauver une vie, c'est-à-dire une femme qui a failli mourir sur les coups de cet individu. Et le problème, c'est qu'en le ramenant, sachant que cet individu était hyper, hyper agité, donc du coup, en ramenant au service, au moment où il voulait le faire souffler à l'éthylotest, donc bien évidemment, un seul collègue ne pouvait pas le faire passer parce que vu son état d'agitation, il fallait, on va dire, un minimum de protection. Et je pense, après cette enquête qu'il déterminera, dans cette agitation, excitation, on va dire, assez compliquée, donc je pense que l'individu s'est saisi de l'arme de notre collègue, sachant que dans on a des étuis où on a une rétention de sécurité et qui permet justement pour éviter ce genre de cas. Et je peux dire que c'est très, 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 très rare que ce genre de cas arrive, quoi.
À moins mais que justement, vraiment... est-ce que la protection a été mise?
Je pense que oui. Après, si c'est un individu, je vais vous dire, après, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais après, je pense qu'effectivement, on sait que là, quand ce genre de personne a eu le cran, entre guillemets, de saisir l'arme d'un collègue, c'est que vraiment, il y avait une réelle intention de tuer,
Il n'y a pas une sécurité sur l'arme ensuite?
Il y a une sécurité, mais en fait, il y a une cartouche qu'on appelle une cartouche chambrée, parce qu'il faut savoir qu'on met toujours notre arme en service, parce que nous sommes en service. Donc, il y a une cartouche qui est chambrée systématiquement. Maintenant, après, soit l'individu est bien connaisseur des armes, ou soit effectivement, c'est...
Donc la cartouche est engagée, chambrée, donc s'il tire, la cartouche part.
Ah, évidemment, parce que c'est normal, parce que nous, comme nous sommes policiers, donc systématiquement, dès qu'on on saisit notre arme et tout, donc on est prêt, évidemment, à intervenir. Donc là, dans la précipitation, je pense que peut-être, il a dû la saisir. Après, effectivement, j'ai pas tous les éléments.
Vos collègues, ils travaillent au commissariat du 13e arrondissement?
Oui, bien sûr. Donc ils ramènent. Donc c'était des équipes de police secours. Donc ils ramènent évidemment l'individu.
Mais tu vois, Abdoulaye, là, je lisais un peu les commentaires sur cette interpellation. Oui. Il y a sûrement des policiers, des collègues là, de manière anonyme, qui disent à chaque fois pour nous c'est le plus compliqué, c'est le forcené, c'est le type agité. Ce sont les interpellations sur lesquelles on sait que tout peut arriver. Quoi.
Alors, imprévisible, irrationnel.
Vas-y. C'est très très clair. En fait, quand on regarde les chiffres, on a 15 150 policiers qui sont blessés par an. 40 policiers qui sont blessés par jour.
On n'en parle jamais. Hein.
Et le souci, c'est qu'effectivement, chaque intervention, aucune intervention n'est anodine. Et le problème, c'est que quand on est face à un forcené, parce que moi, je les entends, ces experts de canapé 2.0 qui vont nous dire, mais il fallait tirer dans les pneus, ou il fallait peut-être utiliser la manière douce, ou bien essayer de faire la désescalade. Je défie quiconque d'essayer d'interpeller un individu qui ne veut pas se laisser faire. Et là, malheureusement, on a deux collègues qui faisaient face à un individu qui, effectivement, ne voulait pas se laisser faire, sachant que c'est des collègues au préalable ont sauvé.
Mais Abdoulaye, il suffit de voir quand il y a des violences dans la rue, que des gens se battent, etc. Est-ce que les citoyens interviennent, essayent de séparer? Personne.
Malheureusement, le premier réflexe des citoyens, c'est de sortir le téléphone portable.
Voilà.
Et donc, il y a des violences policières.
Voilà. Et donc, le rôle du policier, c'est justement d'intervenir comme il l'a fait avec ce monsieur.
Je ne cesse de façon de le dire systématiquement.
Donc c'est facile de donner des leçons, quoi.
C'est que peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les policiers ne sont pas nos ennemis, les ennemis des citoyens. Ils sont là pour justement sauver les citoyens. Malheureusement, nous en avons deux au péril de leur vie. J'espère vraiment, je vous le dis parce que j'ai un peu d'émotion, parce que j'espère vraiment que notre collègue va s'en sortir, parce que c'est quand même, au-delà d'un policier, c'est un humain, c'est un père de famille. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est juste simplement faire notre travail et rentrer en vie.
Mais surtout, ce qu'il faut souligner, Abdoulaye, c'est aussi que lorsque vous, policiers, vous intervenez, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, sur qui vous allez tomber.
Mais on connaît pas les individus.
Voilà, la personne est à la fois dangereuse et dérangée, je pense, on peut le dire. Mais ça, on peut pas savoir. C'est-à-dire que on vous appelle.
C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que dès qu'il y a une action de police et qui est filmée, etc., qui est balancée sur les réseaux sociaux, je me demande toujours, donc, faire très attention, parce qu'on ne sait pas quels sont le avant ou l'après. Chaque intervention, aucune intervention n'est anodine. Et on a une preuve, encore une fois, que des policiers qui vont sauver une vie, et à l'issue, on ne sait pas quelle sera l'issue finale. Et là, malheureusement, ce qui est encore plus frappant, c'est que ça s'est passé dans notre enceinte,
Ils ont sauvé cette femme.
Malheureusement, c'est en second plan, parce que aujourd'hui, pour l'instant, encore une fois, on espère que nos collègues vont s'en sortir et l'enquête après dira le reste.
Et c'est vrai ce que disait Abdoulaye, 15 000 policiers par an, c'est
beaucoup.
Hein.
C'est énorme. 15 000 policiers par an.
Faut rappeler que c'est un métier dangereux.
Et on l'oublie, hein. C'est vrai que souvent, on met en avant. la critique de la police, mais c'est vrai que...
Mais Abdoulaye, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui, comme on le soulignait avec les chiffres que donnait Jean-Loup Bonamy, c'est qu'aujourd'hui, c'est la question du couteau et de l'arme blanche. Tu vois, avec Olivier, on était à Marseille, comme tu le sais, on a pu discuter avec certains de tes collègues qui étaient en civil au milieu de la foule, et c'est ce qui les inquiétait le plus, c'était ça.
C'est le type un peu,
dérangé qui est parti le matin avec ne serait-ce qu'un Opinel ou quoi que ce soit, et qui d'un coup, parce qu'il y a du monde, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a l'effet de masse,
il a pris des stupéfiants.
Le type décompense et à ce moment-là sort son arme. Enfin, sort son couteau.
Aujourd'hui, en fait, si tu veux, il y a une forme de banalisation sur le couteau. Si on le voit, quand tu vois qu'il y a quand même des gamins, même sur Snapchat, des trucs comme ça, etc., qui s'affichent en entrant dans un collège avec un couteau dans leur sac pour essayer d'intimider. Et le couteau, aujourd'hui, c'est une arme que tu peux trouver partout. Donc, c'est très difficile de légiférer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu as des individus qui vont
balader
des couteaux.
Mais c'est l'américanisation de la société, sauf que comme on n'a pas d'armes comme aux États-Unis parce que c'est illégal, on a des couteaux. Voilà. On n'a pas d'armes à feu, on a des couteaux.
Mais Abdoulaye, tu te vois avec tes collègues contrôler dans la rue, faire de la palpation simplement pour savoir s'il y a une personne à un couteau, c'est pas possible.
Bah, disons que le contrôle, c'est pour ça que tu vois, la question du contrôle d'identité a été remis en cause plusieurs fois, mais je le dis encore une fois, c'est que quand on contrôle, c'est que déjà c'est sur réquisition de procureur, c'est que la loi nous l'autorise, et effectivement, forcément, donc on va essayer de palper évidemment soit face à un événement, etc.
Oui, mais d'accord. Mais Abdoulaye, quand par exemple on est palpé à l'entrée d'un stade de foot, et parfois les policiers vont tomber sur un couteau, qu'est-ce qu'il arrive pour la personne qui a porté le couteau? On lui confisque son arme, et voilà.
Bah, tu sais que l'excuse souvent, c'est de dire, ouais, écoutez, voilà, c'est pour couper mon sandwich ou un truc comme ça. Et malheureusement, donc, vu qu'il y a une foule et tout, donc je pense que maintenant, malheureusement, avec l'État, donc on ne peut pas faire autrement. Donc on met de côté et la personne rentre, c'est-à-dire qu'on lui confisque, tu vois. Et j'ai envie de dire aussi que toute personne.
On a le droit de se balader avec un couteau.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non, c'est interdit.
Donc c'est interdit.
Oui, mais alors, même un Opinel.
C'est comme
tu pars en pique-nique, tu fais comment?
C'est comme une. J'ai envie de dire, tu peux le laisser dans ta glacière ou chose comme ça, mais pas sur toi.
Aujourd'hui, tu peux.
C'est tout le paradoxe. C'est parce qu'on a des gens bien intentionnés. Je suis rassuré d'avoir un couteau, Abdoulaye.
C'est quand même l'idée la plus absurde.
Oui. Exactement. Moi, je peux pas savoir si t'es quelqu'un de bien intentionné. De base, je ne te connais pas. Et du coup, si toi tu dis, écoutez, je suis bien intentionné. Oui, mais moi, je ne crois que.
Mais il y a des gens qui se protègent, qui se disent, j'ai un couteau pour me protéger.
Il y a la police pour ça. Et le 17.
Abdoulaye, je te remercie d'avoir été quelques instants avec nous. Merci, Abdoulaye, qui est policier à Paris. Écoutez, venez, continuez d'en discuter avec nous au 32-16, justement. Savoir où on en est.
Ça s'appelle le 32-16 ?
Non, stop. On va vous dire la vérité. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir, là, dans 3 minutes, on aurait dû avoir avec nous Mathieu Kassovitz.
Oui, on vous l'avait annoncé.
Voilà, on vous l'avait annoncé.
On vous l'avait promis.
De son film sur le cannabis qui va être projeté à l'Assemblée nationale. Sauf que Mathieu Kassovitz a eu un contretemps, il a dû repasser chez lui. C'est de l'autre côté de Paris et que pour venir jusqu'ici, visiblement, c'est très compliqué, que ce soit au niveau des transports en commun ou sur la route.
Eh bien, nous ne fumerons pas un joint matin avec Mathieu.
On a proposé à Mathieu Kassovitz.
Il en manque.
Parce que sinon, il sera arrivé pour les 10 dernières minutes de l'émission. Ce qui aurait été dommage. Il y a un vrai débat de société autour de ce film qui va être proposé à l'Assemblée nationale au mois de juin prochain. Donc, on a proposé à Mathieu de venir nous voir lundi ou mardi prochain pour qu'on puisse en parler, tranquillement. Donc voilà, on est en train de bouger un peu l'émission, de passer au direct.
On a vu le documentaire.
Vous savez ce qu'on va faire? Suite des GG dans un instant. Voilà, on va faire ça.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
En direct sur RMC, les grandes gueules avec vous, 32-16 pour discuter, pour débattre. Les grandes gueules, c'est à la télé, c'est RMC Story, c'est à la radio, c'est RMC. Et la roue tourne, les amis, la roue tourne, la RMC, la roue multicache. 20 000 euros à gagner chaque jour. La roue est de retour. Vous venez d'entendre le son. Vous m'envoyez roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 euros en vous inscrivant. Donc à vous de jouer. à vous de gagner. On y va pour un nouveau petit sujet de discussion.
Non imposable. Toujours ça que les politiques n'auront pas.
Non imposable, comme le rappelle Jean-Loup Bonamy, effectivement. On avait même demandé confirmation
à Bruno Le Maire.
À Bruno Le Maire.
Dans son livre vendu à
1800 exemplaires.
1800 exemplaires, il le dit, page 54.
Alors, parlons de l'une des enseignes préférées des Français qui s'appelle l'enseigne Action, le magasin Action. Un responsable du magasin Action a été licencié à la fin du mois de mars parce qu'il a consommé un paquet de mini saucissons, mais il ne l'a pas dit.
Oui, il s'appelle Ludovic, c'est un salarié, ça fait 8 ans qu'il travaille pour Action, cette célèbre enseigne de discount qui cartonne partout en France. Effectivement, tout s'est interrompu brusquement. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu une lettre le 26 mars dernier, une lettre du licenciement. Son tort, avoir mangé un paquet de mini-saucisses sans passer à la caisse. C'est le Parisien qui nous raconte cette histoire. Vos agissements ont causé au magasin Action de Nogent-sur-Oise un préjudice de 5,48 €. Voilà ce qui était écrit dans la lettre, c'est ce que dit Parisien. Hein. Alors lui, il explique Ludovic qu'il avait une petite faim pendant la journée. J'ai pris une canette, un paquet de gâteaux et des mini saucisses en rayon et je suis allé dans mon bureau pour les manger. Comme il y avait du monde à la caisse, je me suis dit que je payerais plus tard, mais j'ai oublié de le faire le soir même en clôturant la caisse. Et donc derrière, il a été licencié. On va voir s'il pourra obtenir un gain de cause au prud'homme. J'aurais dû payer sur le moment, mais ça ne méritait pas licenciement, pense Ludovic. Est-ce que l'action est trop sévère, trop dure?
Le préjudice total est de combien?
5,48 €.
Ah oui, oh là là,
attendez.
Quelle gravité!
Est-ce que des mini saucisses, c'est la même chose que des saucisses cocktail? C'est quoi des mini saucisses?
Non, tu sais, les mini saucisses.
Les mini saucisses,
je pense que c'est les mini saucissons.
Pour être
tout à fait honnête, saucisses.
Non, mais arrêtez de questionner la question de connaissance.
Le directeur régional d'action, monsieur Magbrook Nekkouf, a été interviewé par le Parisien. Et il dit que Ludovic a un dossier assez épais. Oui. Et donc, il sait très bien que ce n'est pas uniquement ça.
Et alors, on le croit pas puisque, alors, c'est facile. Le monsieur se défend, le directeur du magasin, en disant, monsieur Ludovic a un dossier assez épais. D'accord? On aimerait bien savoir ce que c'est, ce dossier épais. Première chose. Deuxième chose, dans la lettre de licenciement, il est fait état que de ce vol de mini-saucisses. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que on n'a pas retenu la bonne foi de l'employé qui était là depuis 8 ans et qui a dit j'ai tout simplement pas payé au moment où ça aurait dû l'être et la meilleure des choses aurait été à la direction de dire vous pouvez régulariser demain matin en caisse. Point. Fin de l'histoire. Est-ce que ça c'est 54 ans licencié, travaille là-bas depuis 8 ans pour 5,48 €. C'est quel degré de foutage de gueule quand on sait le pognon que ces gens se mettent dans les poches.
Mais bien sûr, est-ce que ça c'est une faute grave, lourde qui justifierait si il a un dossier comme dit le directeur.
Qui déballe.
Eh ben il faut que dans la lettre pour les motifs de licenciement apparaisse le reste. Je ne sais pas qui n'a pas fait ses tâches, qu'il a fait.
Non mais Frédéric, tu remarqueras si ce dossier est aussi lourd qu'ils le prétendent, pourquoi il n'y a pas eu de licenciement pour ces dossiers qui sembleraient bien plus lourd
sur
que
les fautes précédentes.
Voilà.
Bien sûr. Donc là, on a l'impression que on essaie de trouver
c'est
un prétexte.
C'est la saucisse qui a fait déborder le vase ou c'est la saucisse qui a mis le feu aux poudres?
C'est vrai. Non, moi je pense que c'est la moutarde. Une seule raison est invoquée dans la lettre.
Ce qui est quand même.
Le gars, il a quand même becqué à l'œil.
Oui.
Becqué à l'œil.
De bonne foi qu'il pensait qu'il voulait payer plus tard.
Bon,
Il a oublié que la caisse a été.
J'ai pris entrée, plat, dessert. J'ai aussi pris une petite bouteille de champagne.
Non, il a pas.
Arrête.
Je pense que tu n'as jamais été chez Action parce qu'il n'y a pas beaucoup de champagne.
Chez Action, ça sent le champomis.
Il a pris une canette, un paquet de gâteaux et des mini-saucisses.
Oui, enfin bon, voilà, on peut dire que même
ça fait entrée, plat, dessert. Ah non, il n'y a pas le dessert. Il y a le dessert, il a fait.
Est-ce que c'est un licenciement?
Moi déjà, j'ai toujours pensé. Tu vois, ça se fait dans d'autres pays que par exemple, les enseignes de grande distribution devraient faire des prix, voire des dons à leurs salariés en nature.
Je pense que
ça serait totalement normal. Mmh. Quand tu vois ce que gagne une caissière de supermarché, quand tu vois la difficulté même physique, les troubles musculo-squelettiques et tout, et quand tu vois, comme le disait Zora, l'argent que se font ces grands groupes, ils pourraient très bien, en plus du salaire, faire des dons en nature ou alors permettre des tarifs réduits pour leurs salariés. Ça paraîtrait déjà totalement normal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'un jour, il faudra quand même faire de manière générale le procès de la grande distribution dans les difficultés économiques de la France.
Donc allez-y, Jean-Loup Bonamy est en train de vous donner un blanc-seing. Tant que vous n'avez pas... Tant mais que vous n'avez pas de cadeaux en nature ou de bons, volez.
Non mais tu crois,
servez-vous.
Tu crois que je vais
vu que ces enseignes se gavent, allez-y, servez-vous.
Sur les gars,
servez-vous
la
dans
distrib.
Les rayons. Faites rentrer plat, dessert.
Il
tout
a
tout
pas
l'heure.
Volé. Non,
mais il dénonçait la décadence. Mais non, Jean-Loup Bonamy,
la promesse
au grand capital, aux méchantes enseignes de grande distribution, vous dit c'est open bar, le buffet est ouvert.
Alain Marchal est toujours du côté des puissants et des riches.
C'est du côté de l'exemple.
Non, il a Alain vient de déclarer que Ludovic est un voleur.
Non. Si. Bah, sur le fond, comment ça s'appelle ?
Non, mais pour 5,48€,
tu n'aurais pas pu voler. Là, tu te mets du côté de la direction, puisque Ludovic dit qu'il n'avait pas volé.
Non,
qu'il voulait payer, qu'il a oublié.
Dans ce cas-là, on aurait pu lui demander simplement de régulariser et de payer le lendemain.
Voilà.
On lui dit, au fait, Ludo, t'as pas payé ça, ça fait 5,48€. Bah voilà, tu peux nous payer ça demain. Et puis voilà, c'était réglé.
Allez-y.
Bah oui, non, mais.
C'était réglé.
Voilà.
C'était plus simple que de passer.
Ou alors. On aurait dû le donner, lui dire, écoute, c'est cadeau. Vu les grands profits que nous faisons,
mais
5,48€. Et demain, tu peux recommencer, tu peux te resservir 5,48€.
D'ailleurs, si le directeur a un chouchou, une chouchoute dans son équipe, qui prend un petit paquet de gâteaux ou un yaourt, il ne lui dira pas, ça fera 2 euros.
Les profits d'une boîte ne justifient pas qu'on vole, parce que
c'est
la brillante ou n'importe quoi.
En revanche,
j'ai dit qu'il devrait légalement faire sans qu'il y ait des vols, que ça devrait être une démarche de l'employeur de faire des dons en nature aux employés. Légaux.
Tu t'en sais rien, tu ne connais pas la politique sociale.
Je sais que ce n'est pas le cas.
Mais après, peut-être qu'ils sont un peu durs, parce que c'est trop, c'est tout moche.
Licenciement,
moi, ça ne vaut pas licenciement. 5,48€, ils le payent le lendemain et on en finit.
Dans les misérables.
Aller traquer un salarié, se lancer là-dedans.
Est-ce que c'est pas symptomatique d'une façon de manager aujourd'hui, un peu bête et méchante?
Mais je pense que c'est malheureusement peut-être un symptôme. Et on a un gros problème en France sur le management de manière générale. Je veux dire, pas simplement sur la question d'action et les 5,48. Le management à la française pose problème et même aussi est très largement lié parfois à notre manque de productivité. Et c'est un management vertical, problématique, qui est assez autoritaire et un peu partout on le dénonce. Donc et pas simplement que dans la grande distribution.
Oui. On a parlé de la dame pipi qui s'est fait virer par la société néerlandaise qui gère toutes les toilettes des gares de France. On a sous-traité ça à une société néerlandaise. Elle avait pris une pièce pensant que c'était un pourboire qu'elle avait le droit de le faire. Or, les pourboires sont interdits. Elle s'est fait aussi pareil.
Mais c'est n'importe quoi. C'est du délire. Il y a une violence qui s'abat sur les salariés que je trouve assez idiote. Alors peut-être qu'en plus ils sont encouragés, comme maintenant ils savent qu'il y a la bérémisation au prud'homme et qu'on peut plus aller à un certain point. Ils se disent on va se faire plaisir.
Admettons, partons du principe que effectivement qu'on n'a pas tous les éléments, mais qu'il est bonne foi. Mais je me souviens de cette interview il y a quelques mois de ça. C'était l'année dernière, de ce gérant de supermarché qui disait que, tu sais, l'un des comportements qu'on voit le plus en ce moment sont les gens qui, dans les rayons, ouvrent un paquet de chips.
Et qui mangent
ou prennent un paquet de gâteaux.
Les clients.
Et lui-même disait, c'était extraordinaire. Il dit,
comment ? Si on paye après, ça va.
Mais non, tu le payes pas parce que justement, ils disent, ils le bouffent.
Ah oui,
dans mon oreillette, on me dit, je l'ai déjà fait. Tu vois, voilà. Donc, c'est ce comportement de, on a liquidé. Maintenant, c'est les mini-paquets. Tu sais, il y a beaucoup de mini-paquets. Et donc, le temps qu'on fait ses courses, en fait, on a mangé un mini-paquet de biscuits ou un sucré ou salé. Et quand les personnes sont interpellées, souvent, ce qu'on a répondu à ce gérant de supermarché, c'est exactement ce qu'a dit Jean-Loup Bonamy. Vous allez pas me gonfler avec les profits que vous faites ou les salaires que vous payez.
Non, là, c'est du vol.
Un mini paquet
là,
de curly
vol,
là, ou un mini paquet de gâteaux.
Et surtout, non, mais tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que
tu l'as fait.
Non, je l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Mais en fait, j'y pense à cause de Kassovitz. C'est quelque chose qu'on apprend aux gens dans les services secrets. Tu sais, quand ils sont en territoire étranger pour survivre, quand t'es grillé et tout, que t'as plus d'argent, en fait, on te dit, tu vas dans le supermarché, tu ouvres les paquets de chips et tu peux manger des chips dans le magasin. C'est récupérer. Et en fait, il y a moins de risques que de passer le portique avec le paquet de chips. Tu peux te faire choper, mais il y a moins de risques. Et donc, aux agents qui peuvent être dans la clandestinité, dans une situation très dégradée, on leur apprend ça. Voilà, c'était la minute bureau des légendes. Tu en parleras avec Mathieu Kassovitz lundi. Peut-être que Ludo est un agent secret qui s'est fait griller par le contre-espionnage d'Action.
Alors, dites-nous, dites-nous franchement, est-ce que ça...
C'est ça.
Est-ce que ça vous est arrivé en travaillant dans un supermarché? Non, mais on va poser la question vérité au 32-16. Est-ce que ça vous est arrivé justement en étant dans un supermarché?
J'avais déjà ouvert des bocaux de cornichons, de mini-saucisses.
Le petit bocal, le petit mini-saucisse, je fais mon déjeuner.
Carrément manger du yaourt.
Je paye le soir ou je paye le lendemain. En tant qu'employé, de bonne foi.
Bien sûr.
On en discute au 32-16 avec vous. J'ai déjà Raphaël qui vient d'arriver, qui estime que la grande distribution, il est plutôt sur la ligne Jean-Loup Bonamy. C'est-à-dire la grande distribution devrait faire des dons aux employés au lieu de jeter à la poubelle. On a Paul qui est directeur de magasin. Il est directeur de quelle enseigne à votre avis?
Action.
Bien joué. Et il nous a appelé et il va témoigner dans un instant.
Oula. Action. MC. L'après-midi. Les grandes gueules. Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. C'est avec vous que l'on débat au 32-16. On parle de ce qui s'est passé dans ce magasin Action avec cet employé qui s'est fait virer pour 5,48€. Il a pris des mini saucissons. Il avait pris une.
Des mini saucisses.
C'est sur un autre article.
Peut-être que si ça aurait été saucisse, il n'aurait pas été licencié.
Raphaël est avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous.
Okay. Comment vous réagissez à cette histoire, Raphaël, alors?
Alors, moi, je suis assez d'accord avec les intervenants, enfin, qu'un des intervenants en disant que la grande distribution, vu le profit qu'engendre quand même la grande distrib, et vu tout ce qu'ils jettent à la poubelle, ou voilà, tout ce qui soit disant...
C'est Jean-Loup Bénamy, le anticapitaliste, je le dénonce.
C'est Jean-Loup Bénamy, alors voilà, moi, je suis commercial. Je travaille avec la grande distribution, et je peux voir quand même tout ce qu'ils gaspillent aussi, donc tout ça, ça pourrait être quand même donné aux employés. Sans problème. Voilà, il n'y a pas de.
Peut-être que c'est le cas.
Non, moi je vois que souvent ça balance ou ça donne. Alors ça donne au resto du cœur, ça c'est très bien aussi. Mais je pense que certains employés qui travaillent 35 heures et qui gagnent peanuts, ça serait bien peut-être aussi un peu de les aider dans des moments difficiles.
Vous dites, lui il était quand même responsable adjoint du magasin, le salarié en question. Bon. Okay.
À mon avis, ça ne se passait pas très bien avec le responsable.
Oui.
Déjà, au départ.
Après, il faut voir, c'est ce que vous avez dit, ça se passait pas très bien avec le responsable, on va voir aussi déjà s'il a pas eu des casseroles, mais pour moi, je trouve ça logique, en fait, de pouvoir aider le personnel, et puis la grande distribution peut le faire.
Le problème, c'est qu'ils peuvent pas le laisser. Moi, je pense que le licenciement, c'est trop dur, mais ils peuvent pas laisser un salarié voler son propre magasin, parce que...
Mais il avait pas l'intention.
Même si lui, il dit qu'il avait pas l'intention.
Voilà.
Alors attendez, Raphaël, restez avec nous parce que comme je vous le disais justement, on a Paul qui est directeur de magasin Action. Paul.
Bonjour à tous.
Paul.
Cette histoire, vous la connaissez, donc comment vous réagissez, vous dites-nous.
En fait, sur les 5,48€ ou les 5,50€ liés au problème, je peux comprendre que ça peut paraître rien. Mais en fait, il faut vraiment se mettre à la place du directeur magasin et du directeur régional sur un magasin avec 30 employés. Si demain, en fait, je me retrouve dans mon magasin avec 30 employés et que tout le monde fait comme ça, tout le monde se sert et il paye 2, 3, 4 jours, 5 jours après. Du coup, comment on fait? Comment ça se passe pour gérer, etc. Si on laisse passer là, ça veut dire que les prochaines fois qu'il va falloir laisser passer, on va créer un précédent.
En fait, donc vous ne croyez pas à la version de ce salarié qui dit avoir pris, pensant, il voulait régler plus tard, il a oublié et donc c'était trop tard, la caisse était fermée.
Tout à fait, je crois à sa bonne foi. Voilà, le but, chez Action, on est quand même plutôt bienveillant. Il faut savoir que les collaborateurs...
Alors pourquoi est-il menacé de licenciement alors?
Une réduction de 20%.
Ils ont réduction.
Lors des achats et immédiat. Moi j'ai été dans le groupe où en fait on paye et ensuite on est remboursé sur le virement bancaire là, c'est 20% immédiat. Déjà.
Donc il y a déjà un effort fait par la direction vers le salarié.
Et pourquoi il est licencié alors?
Moi j'en sais pas plus, c'est pas du tout dans ma région.
Il a un dossier un peu plus lourd.
A priori, c'est ce qu'il dit, je connais pas du tout le dossier. Voilà, j'appelais juste pour vous donner un peu de contexte.
Mais est-ce que ça vous paraît excessif ou
Moi personnellement, ça me paraît excessif. Peut-être un avertissement ou quelque chose comme ça histoire de marquer le coup.
Mais peut-être que c'est pas le premier avertissement.
Paul, très franchement, est-ce que ça arrive souvent Alors, d'avoir des employés qui servent comme ça et...
Non, franchement, ça fait 5 ans que je suis chez Action, que je suis directeur de magasin, et j'ai jamais vu de cas de figure. On a, oui, on a du vol comme dans n'importe quelle enseigne, mais de se servir, et non, ça, c'est, franchement, c'est la première fois que, en toute honnêteté, c'est vraiment la première fois que je vois ce type de
Et des clients qui se disent, tiens, bah, je vais grignoter un petit paquet de biscuits ou un petit truc comme
ça. Ça, c'est tous les jours. Ah oui, ça, c'est tous les jours. on se bat en magasin pour avec toute bienveillance,
Alors, justement.
Comment vous réagissez?
Quand ça se passe, oublié, quand vous interpellez, comment vous dialoguez, dites-nous.
L'idéal, voilà, c'est pour pas créer de quiproquos et de situations un peu tendues, voilà, on dit, on vous emmène le paquet directement en caisse, comme ça, ça vous permet de régler, et au moins, on évite tout problème.
Ça se passe bien?
Ah, on a une chance sur deux. Une chance sur deux, mais en général, quand on l'apporte plutôt de la manière plutôt tranquille, en disant, comme ça, on évite tout problème, on emmène ça en caisse et vous paierez plus tard.
Et
en général, ça passe. Sinon, des fois, c'est un peu tendu, on se fait traiter ils pensent qu'on les traite de voleurs, etc., etc. Mais bon,
tu sais, le type, il est là, la personne, elle a la main dans le paquet. Oui. Vous me traitez de voleur, vous dites que j'ai volé, mais c'est quand même hallucinant.
Ça arrive forcément, mais du coup, on leur dit directement, on débite tout problème, et puis on met directement.
Non, mais on paye, et puis c'est réglé, quoi.
C'est ça, exactement. L'idée, c'est ça.
Merci Paul d'avoir été été avec nous.
Olivier Truchot, rendez ce trombone à RMC.
Il faudrait déjà qu'on en ait des trombones.
Si tu arrives à voler un trombone à RMC, t'es un champion, oui. Parce que je ne sais même pas s'il y a des trombones à RMC.
Jean-Louis une des rares personnes encore en France à penser à voler un trombone.
Utiliser un trombone de l'ancien temps.
Vous savez ce qu'il y a comme vol dans les entreprises? Il y a du vol de papier en général.
Des ramettes
de papier.
Bah oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voler dans une entreprise ici à RMC?
Des trombones.
Il y a du matériel qui vaut très cher,
On peut voler des chemises ou des costumes, par exemple.
Nous, vous savez qu'on a des costumes et on a un vestiaire et on nous vole. Et donc, c'est sans doute des collègues qui volent des costumes, des vestes. Et c'est dingue. Moi, on m'a volé une veste. J'ai jamais retrouvé une veste.
Et moi, une cravate.
C'est forcément un collègue, parce que c'est pour rentrer les vestiaires.
C'est en dit long quand même.
Ça en dit long sur l'humanité.
Comme quoi, il n'y a pas de classe sociale.
Ça, tu la dénonces pas, Bonnard.
Exactement.
Mais vous savez que lors des réceptions officielles, la femme de Ceausescu était kleptomane, et la femme du dictateur roumain, et donc il fallait absolument cacher la vaisselle en argent quand on la recevait dans les palais en France, parce que hop, château de Versailles, elle repartait avec une cuillère en argent, etc., etc. Donc ça touche toutes les strates.
Est-ce qu'on a tout récupéré après
Je crois qu'on n'a pas
mais
tout récupéré.
Je te signale que il existe bon nombre de livres de nos confrères journalistes. Qui ont suivi le monde politique et qui racontent peut-être moins maintenant, à une époque, des ministres qui partaient, qui
sans payer le gouvernement, avec le mobilier.
Qui partaient avec du mobilier ou qui utilisaient le ministère, si tu veux, pour dire écoutez, là, ça me plaît pas mal, ce serait pas mal chez moi ou quoi que ce soit.
Bureau de la CRS.
D'ailleurs, il y a eu une très belle enquête. Il y a eu une très belle enquête sur tout ce mobilier qui a été dérobé. Patrimoine de la France qui a été dérobé et tout le patrimoine qui a été vendu et bradé
à la découpe,
à des gens dont on avait organisé l'achat. C'est absolument hallucinant, mais le vol de patrimoine par des gens, par des politiques et par des puissants et des gens qui étaient au pouvoir, c'est connu.
Thomas est avec nous, il est agent immobilier. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, cette histoire Action qui fait débat dans les JG, vous avez entendu le patron de l'enseigne il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Thomas, alors?
Alors, je vais essayer d'être le plus clair. C'est la première fois que je passe à la radio.
Je vous fais confiance.
Donc moi, je suis un ancien... J'ai changé mon prénom. J'ai changé mon prénom pour pas avoir de problème. Moi, je suis un ancien directeur régional d'une enseigne de discount qui n'existe plus. Qui était Leader Price, mais les techniques utilisées, le discours de l'ancien directeur, enfin du directeur d'Action qui est passé juste avant, en fait c'est des discours qu'on utilisait nous quoi, c'est-à-dire vérifier sur les caméras que les commandes soient faites en temps et en heure. Moi je demandais à mes directeurs de magasin de vérifier le timing que mettent les agents pour mettre en rayon les produits. Je demandais qu'on vérifie le temps que les responsables de rayon mettent à passer les commandes. Donc en fait, c'est des techniques qui sont connues. Même le directeur du magasin d'Action qui est passé avant, que je salue, connaît ces techniques. C'est des techniques qui sont connues, reconnues. On est dans du discount. Ils sont c'est là pour faire.
Ouais. C'était la technique, quoi. C'est-à-dire dire, ben, je réglerai demain ou je réglerai en décalé, c'est ça. Et alors qu'en fait, on a grignoté aux frais de la princesse, quoi.
Non, c'était plutôt que lui était sur surveillance, le directeur.
Oui.
Peut-être qu'il coûtait un peu cher, peut-être qu'il était un peu grande gueule ou autre. Alors, faut savoir que dans ce type de magasin, on n'aime pas les gens qui parlent beaucoup.
D'accord.
On n'aime pas les gens qui rouspètent. Donc, du coup, il était certainement sous surveillance et on utilise le moindre prétexte, pour le
sortir.
C'est ça. C'est triste, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté cette profession. Moi, j'étais très jeune quand j'ai été directeur régional. J'avais 30 ans. J'ai commencé en rayon. J'ai été responsable de rayon, directeur de magasin. Et après, je suis monté. Et franchement, c'est technique. C'est, moi, en tout cas, personnellement, c'est honteux de, j'ai licencié des personnes juste parce que, soit elles étaient proches d'un syndicat, soit elles étaient proches d'un responsable de rayon.
C'est très intéressant, ça.
Ah oui, c'est là, c'est pas la saucisse cocktail, c'est la saucisse prétexte.
Oui, c'est ça.
Là, voilà la saucisse qu'on va utiliser.
Mais ça, c'est évident.
Pour régler d'autres comptes.
On attend la petite faute, et puis, voilà, boum, ça y est, on a bouclé le dossier, quoi.
Et si je peux me permettre, il avait 54 ans, c'est ça?
Oui. Donc,
par rapport à ce type de magasin. Alors moi, je connais pas la politique action, je connais la politique discount. Ce type de magasin, on aime bien avoir des jeunes qui représentent un peu l'image des produits. Donc peut-être qu'à 54 ans, il a eu peut-être... Là, c'est que moi qui parle. Hein. J'ai pas d'information. Il a peut-être eu des arrêts maladie.
Ouais.
Il est peut-être un petit peu moins rapide que les autres, que les autres directeurs. Le directeur, il avait quel âge, le directeur d'action qui est passé avant? Il était jeune, non?
Non, mais il est pas dans la même enseigne.
Ouais,
hein.
C'est un autre.
Hein, voilà, qui expliquait, lui, sa perception de l'affaire. Mais il n'est pas impliqué dans l'affaire qui nous concerne.
D'accord. OK.
Oui, votre raisonnement
peut tenir, c'est une hypothèse.
Mais le management dont vous parlez, évidemment qu'il n'est pas, dit ouvertement, mais on sent bien quand on dit il avait un dossier, mais on parle pas de ce dossier. Et puis on met sur la lettre de licenciement que les saucisses, donc il y a quand même un problème, quoi.
Donc au prud'homme, il va gagner. Ces enseignes-là, au prud'homme, elles perdent quasiment à chaque fois. Et c'est surtout aussi malheureusement de notre faute, parce que là, vous voyez, le hasard fait que je suis sur un parking à côté d'un Action. Mais quand je vois les gens qu'il y a dedans, c'est aussi de notre faute d'aller dans ces magasins-là où on veut des prix pas chers. Et à côté de ça, on veut que le personnel soit bien traité, avec
bien
des
payé.
Bons salaires. Ouais. Donc c'est aussi de notre faute ce type de... Mais ça existe
c'est une vraie réflexion.
Oui,
mais ça, c'est toute la contradiction. C'est-à-dire qu'on veut des prix pas chers et en même temps, on veut des prix de qualité. On veut que les gens qui les produisent soient bien payés. On a le même problème avec l'agriculture. On veut manger des tomates et des pommes de terre le moins cher possible. Et en même temps, on voudrait que l'agriculteur qui produit ces tomates et ces pommes de terre puisse vivre décemment.
La grande distribution joue un rôle dans la crise économique du pays. Elle met une énorme pression sur les agriculteurs.
Le consommateur doit aussi réfléchir. Moi, j'aime bien qu'on tape toujours sa grande distribution, mais c'est facile.
Thomas, c'est vous qui avez conclu les GG aujourd'hui. Merci, monsieur
rien,
Thomas.
Bonne journée à tous.
Bonne journée merci à vous. Beaucoup. Vous voyez, c'est très bien passé. Il n'y a pas de quoi avoir la trouille.
Ouais, merci, c'est gentil. Bisous à tout le monde et je vous écoute tous les jours. Vous êtes au top.
Merci. À bientôt pour de nouvelles discussions.
Ça, c'est ça, là.
On se retrouve lundi. Non, je vais te laisser aller la discuter. Déguster seule. Je te laisse aller la piquer dans une grande surface juste à côté.
Avec un trombone.
Avec un trombone.
Il y a la grande saucisse de Rémi Barré qui va arriver.
Allez, Rémi, viens, nous, on se retrouve lundi. Jean-Loup sera là avec Charles Consigny, Joël Dagosséry. Bon.